Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Et nous sommes en petit comité pour cette huitième causerie que j'ai intitulée « Éclaircissement philosophique de la question de la nature et de la loi naturelle ». Je vais commencer par achever la lecture du paragraphe 17 de l'encyclique Humanae Vitae, avant de passer à cette partie très philosophique. C'est le paragraphe où l'encyclique traite des difficultés, si on peut dire, périphériques de la contraception. L'enjeu essentiel, c'est le respect du lien profond entre union et procréation. Mais il y a tous les aspects périphériques, mais qui sont très importants aussi, et qui sont ici envisagés. Les hommes droits pourront encore mieux se convaincre du bien fondé de la doctrine de l'Église en ce domaine, s'ils veulent bien réfléchir aux conséquences des méthodes de régulation artificielle de la natalité. Qu'ils considèrent d'abord quelle voie large et facile ils ouvriraient ainsi à l'infidélité conjugale et à l'abaissement général de la moralité. La fornication et l'adultère sans danger, sans risque, pourrait-on dire. Il n'est pas besoin de beaucoup d'expérience pour connaître la faiblesse humaine et pour comprendre que les hommes, les jeunes en particulier, si vulnérables sur ce point, ont besoin d'encouragement à être fidèles à la loi morale et qu'il ne faut pas leur offrir quelques moyens faciles pour en éluder l'observance. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, que pour beaucoup de jeunes, il y a une liberté de mœurs qui est encouragée par le fait qu'on peut se protéger des accidents grâce aux méthodes contraceptives. On peut craindre aussi que l'homme, en s'habituant à l'usage des pratiques anticonceptionnelles, ne finisse par perdre le respect de la femme et sans plus se soucier de l'équilibre physique et psychologique de celle-ci, n'en viennent à la considérer comme un simple instrument de jouissance égoïste et non plus comme sa compagne respectée et aimée. En effet, la contraception, qui est surtout le fait des femmes et non pas des hommes, va mettre les hommes en tentation d'exiger à tout moment des relations intimes sans tenir compte de l'équilibre physique et psychologique de l'épouse. Qu'on réfléchisse aussi à l'arme dangereuse que l'on viendrait à mettre ainsi aux mains d'autorités publiques, peu soucieuses des exigences morales. Qui pourra reprocher à un gouvernement d'appliquer à la solution des problèmes de la collectivité ce qui serait reconnu permis au conjoint pour la solution d'un problème familial? Si la contraception est bonne pour résoudre les problèmes familiaux de sérénité, de sécurité dans la vie conjugale, qui empêchera les gouvernants de favoriser et même d'imposer à leur peuple, s'ils le jugent nécessaire, la méthode de contraception estimée par eux la plus efficace? Et c'est ce qui était fait dans de nombreux pays. La Chine, par exemple, a non seulement imposé la contraception, mais aussi l'avortement, en voulant absolument qu'il n'y ait qu'un enfant par couple. Maintenant, la Chine le regrette beaucoup parce qu'elle va devoir faire face à un vieillissement de la population et aussi à la grande difficulté qu'ont des hommes de de trouver des femmes. Parce que quand il, dans la mentalité chinoise, quand il faut éliminer un enfant, eh bien on élimine plutôt les filles que les garçons. Et ainsi les hommes, en voulant éviter les difficultés individuelles, familiales ou sociales que l'on rencontre dans l'observation de la loi divine, en arriveraient à laisser à la merci de l'intervention des autorités publiques le secteur le plus personnel et le plus réservé de l'intimité conjugale. Si donc on ne veut pas abandonner à l'arbitraire des hommes la mission d'engendrer la vie, il faut nécessairement reconnaître des limites infranchissables au pouvoir de l'homme sur son corps et sur ses fonctions. Limites que nul homme, qu'il soit simple, particulier ou revêtu d'autorité, n'a le droit d'enfreindre. Et ces limites ne peuvent être déterminées que par le respect qui est dû à l'intégrité de l'organisme humain et de ses fonctions, selon les principes rappelés ci-dessus et selon la juste intelligence du principe de totalité dont j'ai parlé, exposé par notre prédécesseur Pie XII. Je voudrais maintenant consacrer la substance de cette causerie à l'élucidation du concept de nature et du substantif nature et de l'adjectif naturel, parce que, nous l'avons vu plusieurs fois, les principales objections qui ont été faites sur le plan intellectuel à l'encyclique Humanae Vitae étaient qu'elle recourait à une pensée naturaliste. Ça c'est du latin, en grec physiciste. En parlant de lois naturelles et de méthodes naturelles s'opposant aux méthodes artificielles, donc on a dénoncé une utilisation peu critique du concept de nature ou de naturel. Effectivement, je l'ai noté quelquefois, effectivement, le langage de l'encyclique est quelque peu déficient en ce domaine, en ne précisant pas en quel sens on utilise le mot nature et l'adjectif naturel, loi naturelle, méthode naturelle. Jean-Paul II, qui avait une formation philosophique bien plus détaillée, développée que Paul VI, Jean-Paul II a corrigé cela dans plusieurs de ses livres avant qu'il ne fût pape. Et puis, comme pape, il l'a fait dans l'exhortation Familiaris Consortio, qui reste un texte fondamental concernant tous les problèmes liés à la vie familiale, à la vie conjugale. Alors, pour vous parler de ça, je vais m'inspirer d'un livre que vous ne trouverez pas, je vous l'ai dit, à la librairie du Lot, parce qu'il est un peu trop techniquement philosophique, un livre que j'ai publié aux éditions du Cerf, sous le titre « Le fondement de la morale ». Et j'y ai consacré quelques pages à élucider le sens du mot « nature » ou de l'adjectif « naturel ». En faisant remarquer que c'est un mot qui a plusieurs sens dans le langage courant. Déjà dans notre langage quotidien, le mot « nature » a beaucoup de sens différents. Il y a toujours une parenté, mais ce n'est pas un sens identique. C'est comme on dit en philosophie, un sens analogique qui ressemble. Il y a une parenté entre les différents usages du mot. Ce n'est ni totalement différent, mais pas non plus totalement identique, c'est analogique. Le mot nature signifie dans notre langage assez souvent le monde physique environnant. Nous en faisons partie, mais nous utilisons souvent le mot nature pour dire ce qui est autour de nous, ce qui nous environne, l'univers physique, le monde physique. Le monde des choses qui se produisent dans l'univers sans l'intervention de l'homme. on parle de catastrophes naturelles. Ce sont des catastrophes qui ne dépendent pas de nous. Tremblements de terre, typhons, cyclones. Il y a eu ça toujours, même bien avant qu'on ne se pose des questions sur le réchauffement climatique. Ce sont des événements que nous appelons naturels, des catastrophes naturelles. Donc ça se réfère au monde physique environnant. Mais on parle aussi de nature pour désigner ce qu'une chose est, son essence, du verbe esse, être en latin. Quelle est la nature de cette chose? On pose parfois la question comme cela. Oui, mais de quelle nature est le procédé que vous recommandez? Quelle est son essence? Quelle est sa signification? Quelle est sa portée? Quelle est sa nature? Vous êtes malade, on vous dit que vous avez une maladie grave, on demande, mais une maladie de quelle nature? Et quelle est sa définition, son essence, sa portée? On emploie aussi nature et naturel pour désigner l'état primitif d'une chose, d'un être vivant ou d'un site. Les fruits à l'état naturel, ça veut dire sans intervention d'insecticides pour les protéger, sans sucre ajouté au jus de ces fruits, etc. Et les gens cherchent actuellement beaucoup une alimentation naturelle, qu'ils appellent aussi biologique. Donc en s'en tenant à ce que les céréales, les fruits, les viandes sont dans leur état naturel, c'est-à-dire non cultivés, non travaillés, tels que ça se trouve dans la nature. Voilà déjà trois exemples de significations différentes de naturel. Et c'est pourquoi il faut faire la lumière là-dessus. Alors, c'est toujours intéressant de partir de l'étymologie, donc de l'origine des mots. Nature, en français, vient du latin natura, et natura vient du verbe latin nasci, qui signifie naître, et dont le participe passé est natus. Je suis né, en latin, ça se dit natus sum. Et donc, la nature, au sens étymologique du mot, c'est ce dont on hérite par la naissance. C'est ce qui accompagne notre naissance. On est avec cela. Donc c'est l'état, comme on dit, natif d'une chose. Et sur la base de cette signification, on en est venu facilement à une conception de la nature qui l'oppose à la culture. Ça, c'est un couple très important en philosophie, nature-culture. Un champ à l'état naturel, c'est un champ laissé dans l'état où il se trouve spontanément, on pourrait dire par sa naissance. Il est comme cela. Tandis que si on travaille un champ, si on le retourne, si on y met de l'engrais, si on enlève les mauvaises herbes, on aura affaire à un champ cultivé. Cultivé vient du verbe latin colere, qui signifie donc cultiver, travailler. Donc, naturel, dans ce cas-là, signifie inculte. D'où l'idée de l'opposition de nature et culture. On raisonne souvent dans ces termes-là, où la nature s'oppose à la culture. Alors si on conçoit la nature comme étant l'opposé de la culture, l'état primitif des choses, avant qu'elles soient travaillées par l'homme, ça ne va pas fonctionner en philosophie morale, parce que le propre de l'homme, c'est de ne pas en rester à son état naturel. L'homme est un être de culture. Par l'éducation, nous veillons à ce que les enfants ne restent pas à leur état sauvage, naturel. Mais nous éduquons leurs instincts, leur apprenons à manger à certains moments, à manger d'une certaine manière, à faire leurs besoins d'une certaine manière, à s'entretenir eux-mêmes. Bon, ça c'est de la culture. Alors si nature signifie le contraire de la culture, ça ne va pas beaucoup marcher pour parler des problèmes de morale, car la morale fait partie bien sûr de la culture humaine. Et c'est cela qui nous différencie foncièrement des animaux. Les animaux vivent à l'état naturel, sauf si nous les dressons. Il y a une certaine culture animale qui vient de ce qu'on dresse un animal. Quand un éléphant est capable de danser, un peu lourdement, mais quand même, quand on apprend des chats à sauter à travers des cerceaux, etc. Oui, ils acquièrent une certaine culture parce qu'on les a dressés. Mais sinon, les animaux vivent à l'état naturel. Et ils n'évoluent dans leur manière de vivre que si l'homme leur impose ce changement. On dresse des chiens, on est capable dans les cirques de dresser des lions. Ça reste un petit peu dangereux, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Mais sinon, les animaux n'ont pas de culture. Un chat du 21e siècle vit grosso modo comme un chat médiéval. Ils n'ont changé que parce qu'on les a apprivoisés d'une certaine manière, mais sinon... Il n'y a pas de culture canine, il n'y a pas de culture féline. Grosso modo, les animaux vivent aujourd'hui comme ils vivaient au temps des pharaons. Ils n'ont pas... Il n'y a pas une culture léonine, une culture tigresque, une culture canine. Ils vivent grosso modo comme ils ont toujours vécu. Alors, comme l'homme est un être essentiellement culturel, on va donc se méfier si on lit dans un texte comme celui-là qu'il est question de lois naturelles et de méthodes naturelles. On va dire, mais l'homme est un être de culture. L'ambiguïté de ce mot se manifeste encore sur un autre terrain, car je vous l'ai dit tout à l'heure, en titre d'exemple, nous appelons nature également l'univers physique qui nous environne et qui est régi par des lois que nous avons appris à connaître en étudiant la physique, la loi de la gravitation, la loi de la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur, toutes les lois thermiques que nous avons appris, la loi de Joule, etc., que nous avons appris quand nous étions à l'école. L'univers physique est régi par des lois implacables et qui sont en contraste avec ce que nous appelons notre liberté. Donc, dans l'univers physique, il n'y a pas de liberté. La Lune ne se demande pas tous les jours comment vais-je graviter autour de la Terre. Elle obéit à la loi de gravitation qui a déjà été énoncée par Kepler et puis qui a été formalisée par Newton. Donc, elle n'a pas d'état d'âme. La Lune, elle tourne comme elle doit tourner. Et chaque matin, on peut la retrouver, enfin chaque jour, on peut la retrouver, matin ou soir, à la place où elle doit être. Ce matin, je me suis levé assez tôt. Je me dis, elle est là, bien, de fait, elle est là. Il n'y a pas de liberté. Tandis que l'homme se définit comme une liberté. Nous avons le sentiment que nous faisons des choix libres, qui ne sont pas régis par un déterminisme implacable comme l'univers physique. Et donc nous dirons en ce sens que l'homme est un être transnaturel qui dépasse les lois de la physique. Bien sûr, tout ce qui en nous est physique est conforme aux lois de la nature, mais il y a dans l'intime de notre liberté autre chose qui apparaît. Il y a des oppositions mais aussi des identifications. Souvent, on a identifié le mot « nature » avec un état primitif. Par exemple, parmi les disciples de Jean-Jacques Rousseau, il y en a qui ont adopté l'idée que l'homme dans son état naturel, c'est l'homme primitif. Enfin, tout un peu le romantisme qu'il y a eu autour de l'idée du bon sauvage. L'humanité dans son état primitif naturel n'était pas touchée par le mal, c'est la culture qui a introduit le mal dans la vie sociale humaine. Et donc on présente comme idéal de revenir un peu à cet état naturel. Vous avez du courant comme ça encore aujourd'hui. Il y a des groupes ou des sectes où on cherche à vivre, mais tout ou proche de l'état naturel primitif de l'homme. De la manière la plus naturelle possible, en incluant par exemple le nudisme. Il y a une idéologie dans le nudisme, et il faut vivre sans cet artifice que sont des vêtements. Les animaux ne portent pas de vêtements, bah, ils ont un vêtement incorporé à leur peau, mais on ne voit jamais un chien revêtir lui-même un habit. On lui impose un habit parfois au petit chien de madame. On impose un habit, mais sinon, ils vivent à l'état naturel, à l'état primitif. Et il y a parfois dans la pensée humaine l'idéal de revenir à un état primitif. On identifie nature et état primitif de l'homme. Ou bien on identifie la nature avec ce qui est physiologique, ce qui est purement biologique. Mais aussitôt, on va réagir à ça en disant qu'il est essentiel à l'homme de transgresser l'ordre biologique. Et c'est peut-être pas dénué de sens que l'homme soit un singe nu, allusion au titre de l'ouvrage célèbre d'il y a quelques décennies. Tous les animaux ont une sorte de vêtement naturel. Les oiseaux ont leurs plumes, beaucoup de mammifères ont un pelage. L'homme, lui, il naît nu. Et il va devoir se protéger du froid ou de la chaleur grâce à des vêtements. Donc il va être obligé d'être culturel, d'inventer des habits. L'homme est impotent. C'est l'animal le plus impotent qui est dans la création. À peine un petit chat est-il né qu'il est déjà capable quelques heures après de gambader, de courir. Un poulain qui vient de naître, quelques heures après sa naissance, il est déjà sur ses pattes à marcher et même à courir déjà un peu. Les animaux sont très vite prêts aussi pour la reproduction. Après un an ou deux, la plupart sont déjà suffisamment mûrs pour procréer. Tandis que l'être humain, il est impotent, il commence à marcher qu'aux environs d'un an, et il commence à s'exprimer, à disposer de ses cordes vocales pour parler que vers 2 ans, par là, et il reste dépendant, très dépendant, pendant de longues années. Tandis que les animaux sont rapidement équipés pour remplir les obligations de leur vie animale. chassés, capturés, ils sont très vite opérationnels. La vocation de l'homme n'est justement pas de rester un état primitif, soi-disant naturel. Donc, si je me résume, si on oppose radicalement la nature à la culture, si on en fait la négation pure et simple de la liberté créatrice de l'homme, ou bien si on réduit la nature à un donné biologique ou à l'état primitif de l'homme, eh bien alors il faut dire que l'homme n'est pas mesuré par une nature ainsi comprise. Et c'est vrai, notre grandeur, c'est de ne pas en rester à l'état de nature ainsi comprise, puisque l'homme est essentiellement transcendance, dépassement, remise en question du donné, dynamisme inépuisable. Et c'est ce qui fait que nous avons une histoire. Je le répète, les animaux n'ont pas d'histoire. On ne peut pas écrire l'histoire de la girafe, de la culture de la girafe. Il n'y a pas de culture girafine, sauf ce que nous leur imposons comme évolution. Donc, beaucoup de raisons pour écarter l'utilisation du terme nature et naturel quand on parle de l'homme. Seulement, chasser le naturel, il revient au galop. Et en fait, on ne peut pas se passer du concept de nature, parce que quand on dit que l'homme est essentiellement un être de culture, il est essentiellement un être libre qui transgresse l'ordre biologique. Quand on dit qu'il est essentiellement cela, dans essentiellement vous avez essence, et essence est synonyme de nature. Et donc on est contraint de distinguer en philosophie deux sens du mot nature. Un sens étroit par lequel on désigne l'état primitif de l'homme, une donnée biologique, ce qu'on est par la naissance, simplement. Un sens étroit du mot nature. Mais aussi un sens beaucoup plus large, beaucoup plus vaste du mot nature, à savoir l'essence, ce qu'une chose est. Et il faut alors comprendre comment la nature, au sens large, englobant ce qu'une chose est, notamment appliqué à l'homme, inclut aussi, bien sûr, la nature au sens étroit. Parce qu'il est dans la nature de l'homme au sens global d'avoir aussi un corps, d'avoir aussi une réalité physiologique, biologique, qui s'inscrit dans le monde physique. Donc, bien comprendre qu'il y a un sens étroit du mot nature et un sens large. Et au sens large, le mot nature est indispensable, on ne peut pas s'en passer. Et même ceux qui voudraient biffer ce mot du vocabulaire ne peuvent pas y réussir. D'une manière ou d'une autre, si vous le chassez par la porte, le mot nature, il reviendra par la fenêtre. On ne peut pas y échapper. Par exemple, la déclaration des droits de l'homme, elle suppose qu'il y a une nature humaine, indépendante de la couleur de la peau, indépendante du sexe, indépendante de la richesse, indépendante du statut social, indépendante des conceptions philosophiques. C'est simplement lié au fait que l'homme est un homme, à l'humanité de l'homme, et donc à la nature humaine au sens large. On ne peut pas y échapper. Et donc, vous allez comprendre facilement le langage paradoxal que je vais employer. L'homme est selon sa nature propre un être de culture. Il fait partie de la nature de l'homme au sens large d'être un être de culture. Donc, il fait partie de la nature de l'homme de dépasser la nature. J'emploie le terme dans les deux acceptions. il est dans la nature de l'homme de dépasser la nature au sens étroit. L'homme est par nature un être transnaturel. L'homme dépasse la nature au sens étroit d'un donné, et cette transgression fait partie de sa nature au sens large. Si je me suis fait comprendre, je poursuis en disant « L'élimination du concept de nature humaine est impraticable. On ne peut pas y échapper. Et ceux qui cherchent, malgré tout, à éliminer ce concept de nature ne soupçonnent pas à quelles conséquences réactionnaires ils seraient conduits s'ils réussissaient dans leur entreprise. » Alors, le but avoué ou secret de beaucoup d'intellectuels en se débarrassant du concept de nature a été effectivement de se libérer de la morale sexuelle catholique ou bien-pensante, laquelle est basée, nous l'avons vu, sur une conception très ferme de la loi naturelle. Mais si on est ennemi de cela, on ne veut plus entendre parler de loi naturelle, on ne veut plus entendre parler de nature. Mais alors s'il n'y a pas de nature humaine, c'est pas seulement la morale sexuelle qui va s'effondrer, mais toute morale à prétention universelle. Et donc toute morale sociale, toute morale économique, toute morale politique. S'il n'y a pas de perversion sexuelle contraire à la loi naturelle, il n'y a pas non plus d'iniquité en matière sociale qui soit irréductiblement opposée au sens de l'homme. Au nom de quoi va-t-on protester ? Au nom de quoi va-t-on protester si on voit qu'on exploite des êtres humains économiquement, comme ça se fait encore aujourd'hui ? Il y a des pays où on force des enfants à travailler, et à travailler 12 heures par jour. Nos téléphones portables, eh bien, ils reposent pour une part sur l'exploitation économique d'enfants qui doivent récolter le coltan, je pense, un ingrédient de nos téléphones portables. C'est un matériau rare, mais qu'on trouve dans certains pays d'Afrique. C'est très laborieux de le dégager de la nature. Donc il y a pas mal d'enfants qui perdent leur vie. Au nom de quoi allons-nous dénoncer ça si nous voulons protester? Au nom des droits de l'homme. Mais pour qu'il y ait des droits de l'homme, il faut qu'il y ait des droits liés à la nature humaine, au simple fait qu'un homme est un homme, et pas un serpent, et pas un hippopotame. Des droits liés au simple fait qu'on est un être humain, qu'on soit un enfant de 12 ans, qu'on soit un adulte de 50 ans, que l'on soit grand, que l'on soit petit, que l'on soit maigre, que l'on soit obèse, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit blanc, noir, rouge ou jaune, c'est des droits qui sont liés au simple fait qu'un homme est un homme. Ça repose sur l'idée de nature humaine. Impossible de maintenir une morale à quelque niveau que ce soit sans l'idée de nature humaine, mais de nature humaine au sens large, incluant certes la nature au sens étroit, l'ordre biologique, physique, mais le dépassant aussi, puisque nous sommes par nature au sens large des êtres de culture, des êtres de réflexion, de liberté. Eh bien, le domaine ou la controverse sur loi naturelle et nature a été le plus vif, a été, bien sûr, le domaine de la morale sexuelle et notamment la question soulevée par l'encyclique Humanae Vitae de la contraception comme étant contraire à la loi naturelle. Mais vous comprenez maintenant, je pense, c'est clair comme le jour, que la loi naturelle au don de laquelle on déclare que la contraception est intrinsèquement illicite, intrinsèquement mauvaise sur le plan moral, ça ne peut pas être la loi naturelle purement biologique. Il ne s'agit pas, comme je l'ai expliqué longuement hier, il ne s'agit pas, quand on veut obéir à l'encyclique ou à l'éviter, il ne s'agit pas simplement de respecter un cycle biologique, il s'agit de respecter un lien entre union et procréation. Bien sûr, ce lien est lié à des aspects biologiques, nous ne sommes pas des anges, mais ce n'est pas l'ordre biologique comme tel qu'est la norme, c'est le lien entre deux valeurs, la valeur de l'amour humain à la fois spirituel et charnel, s'exprimant dans la vie sexuelle, et d'autre part, l'ouverture au don de la vie. Et donc, il fallait, tout en conservant l'essentiel de ce texte, qui est tout à fait pertinent, il fallait l'expurger de certaines expressions maladroites, prêtant à l'ambiguïté, donnant l'idée qu'on entend par loi naturelle une loi simplement biologique. Et c'est ce que Jean-Paul II a fait dans Familiaris Consortio. Je prends quelques exemples. Donc, on a reproché à l'Église catholique, à travers ce texte, d'autoriser les méthodes naturelles de régulation des naissances parce qu'elles respectent le rythme biologique naturel, et donc en ce sens animal, de la femme. Et elles condamneraient la contraception artificielle parce que celle-ci perturbe la nature biologiquement comprise. Donc il y a là une confusion, une confusion tenace, mais alimentée, il est vrai, de manière inopportune par un langage pas tout à fait adéquat. L'encyclique aurait fait beaucoup mieux de ne pas parler de méthode naturelle et de ne pas désigner la contraception comme une méthode artificielle, parce que la vie humaine est faite d'artifices. C'est pas le fait d'être artificiel qui est négatif. Du matin au soir, nous utilisons des artifices. Et donc c'est maladroit de dénoncer les méthodes contraceptives comme étant artificielles. Et je vous l'ai dit, les méthodes naturelles, dites naturelles, sont elles aussi à leur manière artificielles. Nous ne sommes pas nés avec un thermomètre. Nous ne sommes pas nés avec un calendrier. Nous ne sommes pas nés avec l'observation de la glaire cervicale. Tout ça est en un sens artificiel. Fait partie de la culture humaine. Les lions ne font pas ça. Les lionnes ne font pas ça. Elles ne prennent pas leur température tous les matins et elles ne mesurent jamais la densité ou la fluidité de la glaire cervicale. Tout ça est artificiel. Donc, il faut éviter un langage qui prête à confusion et qui alors alimente la critique. L'encyclique avait le tort de distinguer entre méthodes naturelles et méthodes artificielles sans préciser le rapport de cet usage étroit de l'adjectif naturel opposé à artificiel avec l'acception large du mot nature tel qu'on l'utilise quand on parle de la loi naturelle. Voilà, je pense que si vous avez suivi cela, sans trop de peine, bien, vous avez engrangé une série de concepts extrêmement importants dans toute la philosophie, au-delà de l'enjeu de cette encyclique. Bien, nous avons encore quelques minutes devant nous. S'il y a des questions à poser, vous les posez.
Alors,
Je vais près de vous pour bien comprendre.
Allez-y.
On a parlé de la morale et beaucoup de côté moral, mais à l'époque, de notre époque, on avait de la morale. À l'école, tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus. Donc les repères par rapport aux jeunes, par rapport à l'éducation, ben ça commence tout de suite déjà. On parle de culture, voilà. Les repères de sens.
Ben, monsieur dit actuellement,
on a moins de, les jeunes ont moins de repères dans ces questions-là que dans le passé. C'est vrai. Et enfin, j'ai fait l'expérience que parfois, pas toujours, des jeunes sont ouverts, si de manière pédagogique, et pas en leur faisant la leçon du haut de son savoir, on leur montre les enjeux qui sont liés à tout cela. Mais hier, il y a une personne qui assistait à la causerie, mais qui m'a demandé si j'étais disposé à aller rencontrer à Gap un groupe de jeunes qu'elle anime, en disant, je pense qu'ils seraient intéressés d'entendre pas 10 causeries, mais une, pour montrer certains enjeux. Et j'ai expérimenté ça quand j'ai, en recevant tant d'étudiants dans le passé, et en faisant même parfois une récollection sur ce thème, à l'origine de mon livre « Ton corps pour aimer », il y a une ouverture. Il y a aussi des parents qui sont très soucieux de cela et qui cherchent à faire réfléchir leurs enfants pour qu'ils comprennent les enjeux. Donc, globalement, dans nos sociétés, c'est vrai, ce n'est pas à l'école qu'ils vont apprendre ce genre de culture pour être attentif aux enjeux. C'est même plutôt le contraire. On leur parlera dans les cours d'éducation sexuelle, on leur parlera surtout de manière technique, de différentes méthodes possibles pour éviter une naissance, une information surtout oui, technique, mais pas orientée vers les valeurs. Mais même des parents qui donnent une très bonne éducation sur ce plan-là à leurs enfants, mais se trouvent contrés par l'ambiance qui règne. Et un jeune ou une jeune qui voudrait, auprès de ses compagnons ou de ses compagnes, défendre l'idée qu'il y a intérêt à pratiquer une forme de chasteté dans la vie, se ferait souvent ridiculiser. Moi, j'admire les jeunes qui ont parfois le cran, dans une classe, de témoigner qu'ils vivent d'autres valeurs et qui cherchent à ne pas avoir des relations sexuelles prématurées. Ben, c'est un grand courage qu'ils ont. Donc ça reste possible, ce que vous souhaitez, qu'il y ait une initiation aux enjeux, aux valeurs, mais c'est une tâche qui est très exigeante aujourd'hui parce que l'environnement porte à tout le contraire. Porte à une vie relâchée, facile. Alors, une, là, alors, allez-y.
Je n'étais pas au début des conférences, mais il me semble que ça parle peut-être pas souvent, disons, de la présentation de Dieu qui est amour. Et puis aussi de la Genèse qui parle de la vie, soyez féconds. Oui. Et en fait, tous ces moyens arrêtent la vie. et arrête l'amour, quoi. Donc,
Oui, mais justement, j'ai commencé les causeries par une réflexion sur la grandeur et aussi les lourdeurs du corps humain, et la beauté de l'amour conjugal, hein, la beauté de l'amour conjugal tel que l'Écriture sainte l'éclaire, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et donc il faut commencer par cela, bien sûr. Mais ensuite, j'en suis venu à la problématique qui était traitée par Humanevitae.
Moi, je voulais juste témoigner un peu.
Attendez.
C'est-à-dire que même dans les jeunes engagés dans l'Église, qui par exemple ont des fonctions, des catéchistes, je connais d'autres jeunes, dans les jeunes professionnels, tout ça, tous, quand ils ont trouvé l'amour, on va dire, vivent maritalement. En faisant le catéchisme, en faisant... Et alors, que demander aux autres si ceux qui sont fidèles dans l'Église, dans la jeunesse, beaucoup vivent...
Ceux qui sont fidèles dans l'Église...
Ben oui, qui sont quand même engagés, qui pratiquent et qui viennent à la messe, qui sont catéchistes, qui sont animateurs de groupes professionnels, tout ça, avec, dans le contexte de l'Évangile et de la foi au Christ, la plupart vivent maritalement, quand ils sont jeunes et qu'ils ont découvert une âme sœur, ne sont pas mariés.
Oui.
Avant, bon, après, il y en a qui finissent par se marier, par exemple, mais que demander à ceux qui ne reçoivent rien, qui ne connaissent rien, si ceux qui connaissent Jésus font ça? Mais moi, je trouve que bon, c'est un énorme problème. Hein.
C'est clair. Et c'est peut-être la raison fondamentale pour laquelle on ne parle pas de ces choses-là. Ces gens évitent ces thèmes et ne vont pas les traiter parce qu'ils sont en très mauvaise position pour traiter ça. Je pense qu'ils vont simplement omettre ce genre de questions, ne pas les traiter. Vous trouverez rarement un catéchiste ou un... En France, ça n'existe pas. Dans d'autres pays, oui, un professeur de religion. Donc, qui enseigne dans une école. Ça existe dans les écoles libres, catholiques en France. Mais vous n'en trouverez pas souvent qui vont aborder ces questions-là, parce qu'ils sont très mal placés pour en parler, eux-mêmes vivant autrement. Donc, il y a là un grand déficit. Et il faut beaucoup de chance actuellement pour que des jeunes entendent autre chose que les slogans de notre culture ou de notre inculture présente. Eh oui. Bien. Alors nous avons fait le plus dur du travail. Il nous restera cet après-midi à parler du thème crédit croissant de humanité et réponse à quelques objections. Il y a de fait un regain d'intérêt pour cette encyclique et encore et toujours des objections qui lui sont faites, pas les objections fondamentales sur le sens du mot nature, mais des objections périphériques qu'il faut rencontrer. Et nous terminerons demain en parcourant les paragraphes 18 à 30, qui sont des paragraphes pastoraux, les responsabilités de chacun dans la diffusion du message de l'Église ou dans l'approfondissement des questions traitées par l'encyclique, de la part des scientifiques, de la part des philosophes, de la part des prêtres, de la part des évêques, donc de la part des parents, responsabilité de chacun en la matière.